9h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En marge du récent sommet des chefs d'État d'Afrique et des États-Unis, la Voix de l'Amérique a eu des entretiens avec plusieurs présidents africains ici à Washington. Ces interviews ont porté sur des domaines divers tels que la sécurité régionale, les élections, les réformes constitutionnelles, l'épidémie d'Ebola, pour n'en citer que quelques-uns. Dans ce segment spécial, nous vous proposons de réécouter les chefs d'État du Niger, du Cameroun, de Djibouti, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Tout d'abord, le président Mahamadou Issoufou du Niger, au micro de Nicolas Pinault.
ACMI est présente à la frontière algéro-malienne, mais sachez que le Niger, qui est entouré par des pays qui sont exposés à ces menaces-là, est un pays qui est en paix et en sécurité. Nous avons su, depuis 3 ans et demi que nous sommes en place, garder nos frontières et créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre territoire. Maintenant, vous me parlez de Boko Haram. Je disais que le Niger est dans un triangle, dont un des sommets est la Libye, le deuxième sommet le Mali et le troisième sommet le Nigeria avec Boko Haram. Pour Boko Haram, nous sommes concertés au niveau des pays du bassin du lac Tchad depuis 2012 déjà et nous avons décidé de mettre en place une force multinationale avec la contribution de l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. Chacun s'est engagé à donner un bataillon.
Y a-t-il des membres nigériens de Boko Haram ?
J'ai pas d'informations sur la présence de membres nigérien de Boko Haram, mais nous restons vigilants. En tout cas, côté Niger, nous avons suffisamment renforcé notre présence dans la région qui est frontalière de l'État de Borno, de l'État de Yobe, de l'État d'Adamawa, où la présence de Boko Haram est importante. Nous avons pris beaucoup de dispositions pour renforcer nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles, notamment dans la zone.
Vous avez beaucoup parlé de la Libye. N'y a-t-il pas un paradoxe dans votre position ? Vous demandez une plus forte intervention de la communauté internationale, mais pas une intervention militaire. Est-ce conciliable ?
Il n'y a pas de paradoxe. D'abord, s'agissant de la Libye, je voudrais rappeler ici qu'à l'occasion du sommet du G8 qui a eu lieu à Deauville en 2011, j'avais prévenu qu'on courait vers une situation extrêmement difficile en Libye. J'avais dit qu'il fallait faire attention, il ne faut pas que la solution qu'on veut mettre en place en Libye soit pire que le mal. Je voulais dire par là, il fallait faire attention que la Libye ne se somalise pas, que le pouvoir en Libye ne tombe pas entre les mains d'intégristes, entre les mains de salafistes. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement compliquée en Libye. Nous, on est de ceux qui pensent qu'il faut premièrement neutraliser les milices qui sont en rivalité, qui s'affrontent, qui affrontent également le pouvoir central en Libye. Et il faut aussi mettre en place une réconciliation, y compris avec les kadhafistes. Et enfin, il faut envoyer une force internationale. Si les Libyens le souhaitent, il me semble que cela sera d'une grande utilité.
Le président Mahamadou Issoufou du Niger. Au Cameroun, la menace de Boko Haram se fait de plus en plus pressante. Le groupe islamiste sort assez souvent de ses bases dans le nord-est du Nigeria, notamment l'état de Borno, pour mener des actions sur le territoire camerounais. C'est l'un des points abordés par le chef de l'État Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, lors de son entretien avec La Voix de l'Amérique.
On a affaire à un ennemi pervers, sans foi ni loi, qui attaque les nuits, qui est gauche, et ils ont évidemment fait des exactions. Alors ce que je peux dire, c'est que les Camerounais doivent garder confiance. Le chef d'état-major, je l'ai envoyé là-bas pour réorganiser notre dispositif. J'ai envoyé des secours, des renforts en hommes et en matériel. Nous avons renforcé notre potentiel. Je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. Permettez-moi d'ailleurs de saisir cette occasion pour dire à nos frères, à nos compatriotes de l'extrême nord qui ont subi les sévices, les deuils, pour les assurer de la compassion et de la solidarité de toute la nation camerounaise. Nous ne les laisserons pas, au contraire, nous allons continuer à les protéger et à combattre cet ennemi sans relâche. Je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu un membre de leur famille. J'ai déjà dit aux autorités administratives d'exprimer ces condoléances. Et à tous les Camerounais, je demande de continuer à faire confiance au gouvernement, aux forces de l'ordre. Je salue également nos soldats, dont certains sont tombés, qui ont fait montre de patriotisme, de bravoure. Et je les encourage à aller de l'avant. Pour tous les Camerounais, je dis ceci, dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme.
C'était le président du Cameroun, Paul Biya. En marge du sommet États-Unis-Afrique, Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, a répondu aux questions de Bagassi Koura sur la sécurité et l'épidémie d'Ebola notamment.
Monsieur le Président, on a vu les islamistes s'emparer du nord du Mali et maintenant on a Boko Haram qui non seulement sévit au Nigeria mais a dépassé les frontières maintenant au Cameroun. Comment est-ce que vous voyez la résolution de cette crise liée à Boko Haram?
Alors, je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'abord que les États s'organisent pour comprendre qu'au-delà même de notre région, Boko Haram, c'est une malédiction pour l'humanité. Et ce genre de comportement d'homme est vraiment notre siècle. Alors, donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de la région avec les pays de l'Afrique centrale qui sont aussi intéressés par ce phénomène pour qu'en mutualisant nos moyens, en organisant mieux nos services de renseignement dans la zone et aussi en essayant d'intervenir avec une détermination, mais surtout avec un professionnalisme plus grand, que nous puissions mettre fin à ce genre de comportement assez sordide de notre région.
Et quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce sens au niveau de la CEDEAO?
Non, la CEDEAO a décidé de relancer son programme d'action, sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région, mais aussi de mettre en œuvre son plan d'action qui va bien sûr comporter un ensemble de dispositifs beaucoup plus vigoureux que ce que nous avons vu actuellement.
Et ce ne sera pas le seul front, hein, parce qu'on a maintenant la crise d'Ebola qui a atteint près de 4 pays, dont notamment le Nigeria. Comment vous organisez la riposte face à cette épidémie?
Alors, il y a des réunions qui sont prévues ces jours-ci pour permettre d'avoir une stratégie plus globale, nette, mais en même temps un suivi scientifique beaucoup plus déterminé afin d'enrayer ce fléau-là.
Au micro de Bagassi Koura, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, émettant de Washington DC une émission spéciale consacrée à des entretiens avec les présidents africains ayant participé au récent sommet États-Unis-Afrique dans la capitale fédérale des États-Unis. Ici chez Robin Dorsil. Ismaël Omar Guelleh est président de Djibouti depuis le 8 mai 1999. Son pays est souvent mentionné dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous l'écoutons au micro d'Idriss Fall.
L'insécurité est un problème du continent, à commencer par le nord et ensuite l'ouest, le Sahara, le Sahel, Djibouti, et la Somalie et partout. Et le problème de la sécurité est un problème absolument général, n'est-ce pas, et qui aussi transcende le continent africain parce qu'il sévit aussi en Syrie, en Irak, en Palestine. Donc ce n'est pas un problème uniquement africain ou djiboutien.
Vous étiez à Washington récemment pour renouveler le contrat avec le Pentagone, pour être précis. Vous accueillez en fait une base militaire américaine et on sait que les drones américains sont utilisés pour aller au Yémen ou en Somalie. Mais tout ceci, est-ce que ça ne présente pas le danger pour votre petit pays?
Nous avons pris le risque de combattre la piraterie, le terrorisme, parce que nous pensons qu'en tant que membres de la communauté internationale, nous devons apporter notre contribution. Nous pensons que sans la paix, sans une région, un monde ou un continent apaisé, nous ne pouvons pas parler de développement. C'est pour cela que les États-Unis d'Amérique ont aussi leur part de responsabilité à nous apporter l'aide nécessaire, n'est-ce pas? Parce que la base de Djibouti, ce n'est pas une base pour Djibouti, mais c'est pour la corne de l'Afrique dans sa globalité, pour combattre, si vous voulez, le terrorisme et la piraterie. Et je pense que nous faisons un bon travail parce que les statistiques montrent que la piraterie a diminué de près de 75% les deux dernières années.
Et le terrorisme alors? Parce qu'il y a eu un attentat à Djibouti dans un restaurant qui accueillait des étrangers. Est-ce que ça ne présente pas de risque tout ça?
Nous calculons le risque. Nous calculons le risque et nous pensons que Djibouti est le seul pays en Afrique qui a pu, si vous voulez, démanteler tout un réseau des Shabab qui consistait à faire des attentats suicides successifs. À partir de ce coup qui a été exécuté à Djibouti, comme vous dites, et qui a fait comme victime les deux kamikazes plus une personne, n'est-ce pas? Nous avons pu retracer l'ensemble des organisateurs, de la logistique, de tous les matériels qui ont servi de l'explosif. Et nous avons pu pourchasser les organisateurs jusqu'à Mogadiscio et les faire venir devant le tribunal djiboutien. Ils sont en train d'être enquêtés à Djibouti.
Est-ce que ça assure la protection pour l'avenir, disons?
Absolument, il faut éradiquer le terrorisme d'abord, n'est-ce pas? Pour l'avenir, sinon il n'y a pas d'avenir. Vous voyez ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe un peu partout, ce qui a failli se passer en Égypte. Il faut éradiquer et complètement le terrorisme.
Et vous croyez que ce sera possible en Somalie? Parce que les Shabab, ils sont encore actifs. Hein?
Ils sont dans leur dernier retranchement maintenant, vous pouvez me croire.
Le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, répondait aux questions d'Idriss Fall. L'actualité africaine, notamment en Afrique de l'Ouest, a été largement dominée récemment par la propagation du virus Ebola. On a déjà dénombré plus de 1500 morts, notamment en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Mais il y a eu aussi des inquiétudes en Côte d'Ivoire. Nous écoutons maintenant le président ivoirien Alassane Ouattara au micro de Nicolas Pino.
Le Libéria a décrété l'état d'urgence pour faire face au virus. Comment la Côte d'Ivoire se prépare-t-elle alors que l'épidémie touche ses voisins?
La Côte d'Ivoire s'est déjà préparée dès qu'il y a eu le premier cas signalé donc en Guinée, parce que on savait que si des dispositions n'étaient pas prises en Côte d'Ivoire, du fait donc de la qualité des relations avec ce pays frère et du fait donc des mouvements des populations, la maladie peut venir en Côte d'Ivoire. quelles sont les dispositions qui avaient été prises en son temps et qui sont d'ailleurs renforcées maintenant. Et la première disposition, c'est qu'il y a donc des tampons à la frontière en matière hospitalière, renforcement donc des hôpitaux qui sont le long de la frontière pour pouvoir traiter les cas les plus rapides, détecter ces cas. Mais aussi, il a été donc convenu que nous pouvions donc amener les populations à ne pas consommer de ce qu'on appelle la viande de brousse, c'est-à-dire les singes, les agoutis, donc les chauves-souris, parce que ça peut être des porteurs de maladies. Donc la Côte d'Ivoire a commencé assez tôt. Autre élément, je voulais ajouter, c'est qu'il y a une approche maintenant régionale, puisqu'il y a une réunion donc à Accra, au niveau de la CEDEAO, pour qu'il y ait un combat d'ensemble. Et comme vous le savez, la communauté internationale a commencé à appuyer donc la région avec l'Organisation mondiale de la santé et aussi les États-Unis qui vont aider en matière à la fois financière et technique pour permettre donc de circonscrire la maladie donc dans cette région.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'aide de la communauté internationale est suffisante dans cette crise ?
Il faut d'abord que les États eux-mêmes fassent les efforts donc de base. C'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on continue donc de faire. Mais il est important d'avoir l'expertise de la communauté internationale et aussi le soutien financier parce que, après tout, c'est quand même des sommes importantes qui sont en jeu. Et je crois que la communauté internationale est maintenant assez alertée pour prendre ça en compte parce que, comme on l'a indiqué, ce n'est pas une maladie seulement, ce n'est pas national. Ce n'est même pas régional puisque les gens voyagent. On a vu qu'il y a eu des cas qui touchent les pays développés.
C'était le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Terminons cette série d'entretiens avec le président guinéen Alpha Condé.
L'actualité a évidemment bouleversé ce sommet avec la crise en Afrique de l'Ouest de l'Ebola. Avez-vous l'impression d'avoir obtenu du soutien de la part des Américains ?
J'ai rencontré le ministre de la Santé, le CDC et les chercheurs et le département d'État pour sensibiliser sur l'aide qu'ils doivent nous apporter, pas seulement aux ONG, mais on donne des médicaments mais aussi aux États pour qu'on renforce notre capacité de capacity building. Et surtout aussi, on a eu un encouragement dans la mesure où ils disent qu'ils ont dépensé plus de 400 millions de dollars pour le vaccin et qu'ils espèrent avoir le vaccin en 2015.
Donc pour vous, il n'y a pas de polémique, le fait que les dirigeants du Liberia ou de la Sierra Leone ne soient pas venus, ça a été un peu contesté dans votre pays, la Guinée, le fait que vous soyez ici à Washington, pour vous, il n'y a pas débat ?
Il n'y a pas débat. D'abord, je suis président de mon arrivée, je suis mandaté. Deuxièmement, comme le Liberia a commencé en Guinée, notre situation est mieux maîtrisée en Guinée. Vous voyez par exemple l'aéroport de Guinée et les autres sont venus en Guinée. Justement, nous voulons leur donner notre expérience. Il fallait bien, comme c'est la Guinée qui actuellement est le moins touchée de son intérêt de premier, on a eu le temps donc de nous organiser mieux. Il fallait donc que quelqu'un vienne parler à notre nom. Vous savez, moi, les polémiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire avancer l'Afrique, comment faire avancer la Guinée et la Mano-Rivière, dont j'assume la présidence.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la crise est totalement maîtrisée en Guinée ?
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la crise, où nous avons un point important, c'est le bec de perroquet. Il y a 70% des cas. C'est la frontière entre la Libéria, Sierra Leone, Guinée. Nous avons décidé de sécuriser là-bas militairement et de venir en aide. Donc c'est une des questions que je venais poser aussi. Si on sécurise, les gens ne se déplacent pas. Il faut qu'on vienne en aide au point de vue alimentaire et tout, etc. À Conakry, l'Ebola était presque fini. Malheureusement, il y a une famille, Souma, qui a caché qu'il y avait des malades. Et il s'est déplacé pour aller à Bofa et à Télémélé. Bon, il y a eu des morts là-bas. Il y a eu des cas, mais c'est maîtrisé là-bas.
Mais est-ce que vous avez l'impression que la réponse de la communauté internationale est suffisante ? On a vu ces deux Américains qui ont contracté le virus au Liberia obtenir un traitement expérimental. Le virus de l'Ebola a fait son apparition il y a plus de 40 ans maintenant sur le continent. Est-ce que vous avez le sentiment que la réponse est équilibrée en fonction que vous soyez un patient du Nord ou un patient du Sud ?
Vous savez, les laboratoires, c'est quand même des entreprises commerciales. Quand vous faites le vaccin contre la grippe, vous avez des millions de personnes qui achètent. Quand vous faites le vaccin contre l'Ebola, il y a combien de personnes qui achètent ? Donc il y a d'abord ce premier point. Mais maintenant, il y a une prise de conscience des pays, puisque la directrice générale de l'OMS a dit que c'est une urgence mondiale. Je pense quand même que les États vont s'engager, parce qu'il n'y a que les États qui peuvent... On ne peut pas demander à un laboratoire commercial de faire un vaccin qui ne sera pas beaucoup vendu commercialement. Donc il faut que ce soit les États qui s'impliquent. Parce que l'Ebola quand même fait peur, même si elle tue beaucoup moins que les autres maladies, mais du fait qu'il n'y a pas de... Et ensuite aussi, on n'essaie pas aux gens que tout le monde ne meurt pas d'Ebola, malheureusement, ce qui fait que les gens ne vont pas. En Guinée, par exemple, au début, on avait 90% de morts. Ensuite, le taux est descendu beaucoup, le taux de survie est monté. Donc, ce que j'ai expliqué ici, c'est qu'il faut expliquer aussi aux malades que s'ils sont pris à temps, ils peuvent guérir.
Déclaration du président guinéen Alpha Condé. Que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 1500 morts cette année en Afrique de l'Ouest, la plupart en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Samedi, le gouvernement du Libéria a mis fin à la mesure de quarantaine imposée dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du virus. Les habitants de West Point, à Monrovia, n'avaient pu sortir de leur quartier pendant 10 jours, ce qui avait provoqué des manifestations et des émeutes. Dans l'un des incidents, 4 personnes avaient subi des blessures, dont un adolescent de 16 ans qui est mort par la suite. La présidente Hélène Johnson-Sirleaf a ordonné une enquête. C'est la fin de ce segment spécial consacré à des entretiens réalisés par le service francophone de la Voix de l'Amérique en marge du récent sommet des chefs d'État d'Afrique et des États-Unis. Restez branchés.
Wake up, stand up, Africa. Come on, so pop. Come on, dawn. Lubarenga, lubarenga, man. Manula, no penny. Imagine it's your wealth. Imagine how your dreams. Chende. Sekulchi atuna, se tere istwa. Manula lelini say way ak say fetch teranga say dom manula lelini imagine it's your wealth imagine how your dreams change live again Africa live again. Africa dream again. Wake up, stand up, Africa. Come on, some papa. Come on, the dawn. Lubarenga, lubarenga, man. Manula no penny. It's your wealth. Imagine how you deep. To live again. Africa, live again. Start to smile again. Africa, dream again. To give again. Africa, dream again. Stand up, Africa. Come on, so papa. Come on, dawn. Lubarenga, lubarenga, man. Manula no penny. Imagine it's your wealth. Imagine how your dreams. Sekulchi atuna, se tere istwa. Manula lelini say way ak say fetch teranga say dom manula lelini imagine it's your wealth Afrique live again. Start to smile again. Afrique dream again. Send up Africa, gumun sa bop, gumminga doan doan. Lu barenga am, lu barenga man, manu lo no pemi. Imetimes is your wealth, imetimes how you live. To live again, Africa. Again, start to smile again. Africa dream again. To give again. Africa dream again. Send up Africa, come and support, come in a dawn, a dawn. Lubarenga am, lubarenga man, manula no penny. Imagine is your wealth, imagine how your dreams. Ce que tu as tout le monde, c'est terre histoire. Manula reveni say way at say fetch teranga say dom manula reveni imagine is your wealth imagine how you dreams live again Africa live again. Send up Africa, come and support, come ning a dawn, a dawn. Lubarenga am, lubarenga man, manula no penny. Imagine is your wealth, imagine how your dreams. Sekulche atuna, se tere istwa. Manula reveni say way at say fetch teranga say dom manula reveni imagine is your wealth imagine how your dreams can live again Africa live again. Smile again, Africa dream again. Wake up, send up Africa. Come on, some papa. Come in a dawn, a dawn. Lubarenga am, lubarenga man. Manulo no pemi. Imagine is your wealth.